Et on vous rappelle que vous pouvez participer. N'hésitez pas à poser les questions que nous relayerons tout à l'heure dans la quatrième partie de cette émission. N'hésitez pas, les invités, nos invités, vous répondront tout à l'heure dans Open Question. Alors, la question est simple. Le réemploi des produits et matériaux est-il un mythe ou une réalité? C'est la question de ce débat aujourd'hui. Pour lancer ce sujet, je me tourne vers Stéphane. Comme toujours dans cette émission, on part sur des bonnes bases, on essaie d'expliciter. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire le lien entre réemploi et économie circulaire?
Oui, avec plaisir. Alors, je vais reprendre une base un petit peu technique qui a été évoquée par Franck à l'instant. Le réemploi, aujourd'hui, a sa place dans le Code de l'environnement, article 541.1-1. Et tel que l'a mentionné tout à l'heure Franck, il s'agit effectivement, on parle de réemploi pour des matières, substances, produits, on a une utilisation à nouveau conforme à l'usage initial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est codifié, donc installé. Donc aujourd'hui, le législateur a souhaité donner les éléments nécessaires pour que la dynamique soit présente au quotidien. L'économie circulaire, on en a longuement parlé au cours des précédents WIL. On s'est appuyé sur la présentation telle qu'elle est faite aujourd'hui par l'ADEME. 7 piliers. Sur un certain nombre de piliers, on va retrouver de manière transversale la force du réemploi. Alors bien évidemment, sur celui des déchets, et comme l'a à juste titre indiqué Franck, le réemploi n'a pas sa place, parce que quand on fait du réemploi, on n'est pas dans le statut de déchet. Mais dès le départ, alors même qu'on est en train de concevoir son projet construction, de l'éco-conception, c'est à ce moment-là que le réemploi trouve toute sa place. Il doit, pour l'ensemble en fait, des intervenants, être présent dans le cahier des charges au moment même où on imagine son projet. Parce que c'est la meilleure façon d'avoir une approche globale, systémique, et se donner toutes les chances d'avoir un projet qui capitalise sur l'ensemble des possibilités. On a connu récemment, depuis quelques semaines, voire quelques mois, des tensions très fortes sur les matériaux. On comprend bien qu'on a aujourd'hui à portée de main une multitude de matériaux, de produits qui sont à disposition. Donc quand j'entends parler de difficultés, de tensions sur les matériaux, en fait, on ne dévoile qu'une partie du sujet. On parle de matériaux, de produits neufs. Alors même qu'il y a à disposition des quantités disponibles pour faire baisser les tensions.
Vous nous dites c'est que le réemploi est intimement lié avec l'approvisionnement durable, on est d'accord?
Tout à fait, c'est le deuxième effectivement niveau sur lequel on peut l'identifier sur les 7 piliers de l'économie circulaire, au niveau de l'approvisionnement durable. C'est une ressource qui est en grande quantité disponible. On va l'évoquer tout à l'heure avec nos invités, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de grande qualité et d'expertise qui sont capables de mettre à disposition les volumes suffisants avec le niveau de qualité requis. Et dans un certain nombre de cas, quand il y a des exigences de certificats ou faire valoir un certain nombre d'arguments sur le terrain assurantiel, ils sont à même de les apporter. Donc en matière d'approvisionnement durable, le réemploi a toute sa place. On peut citer encore un autre pilier, l'allongement de la durée d'usage. Celui-là, il est presque évident. Quand on est dans une logique où on réemploie systématiquement, il m'a semblé entendre parler d'une porte tout à l'heure,
oui,
qui voyage de bâtiment en bâtiment, de pièce en pièce, etc.
Soyons dans le concret, oui, comme ça.
On est dans l'allongement de la durée d'usage.
D'accord.
Et on est clairement dans le cercle vertueux tel qu'il est présenté aujourd'hui sur la circularité des 7 piliers, qui est la vision proposée par l'ADEME actuellement.
Et donc recourir au réemploi, ça suppose de la fluidité entre différents acteurs, différents projets,
alors,
inévitablement.
Tout à fait. Je pense que au centre de la dynamique aujourd'hui, comme sur un certain nombre des sujets qu'on a évoqués précédemment, il y a les personnes, il y a les acteurs, il y a les professionnels. Pour moi, aujourd'hui, le succès du réemploi passe par ce que j'appelle le triangle du réemploi. trois acteurs qui sont des acteurs majeurs, facteurs clés de succès du développement du réemploi, les diagnostiqueurs. Il faut avoir aujourd'hui une capacité à faire une cartographie précise de ce qui va être disponible.
Je vois Elisa et Cédric opiner, donc je vais les interviewer juste après.
Oui, et donc les diagnostiqueurs qui font ce travail. Il faut ensuite livrer l'ensemble de ce travail à des acteurs qui vont être capables d'organiser les flux réels. Donc on a des filières de réemploi qui interviennent. Et bien évidemment, il faut en bout de chaîne, mais en matière de réemploi, le bout de chaîne est aussi le début d'une autre chaîne, il faut les entrepreneurs, il faut les artisans qui, un, vont être en mesure de comprendre tout l'intérêt d'utiliser ces matières ou ces produits réemployés, et ensuite, parce qu'ils ont le geste sûr, soit qu'ils l'ont naturellement, soit qu'on les a formés, et c'est le rôle du 3CABTP, que d'accompagner l'ensemble des acteurs sur le savoir et le savoir-faire du réemploi. Et ces acteurs-là, les artisans, sont à même de capitaliser sur tout ce qui est mis à disposition par les filières identifiées par les diagnostiqueurs.
En quelques secondes, je vous voyais réagir, Elisa.
Le réemploi, c'est ce qui est le plus écologique. Dans toutes les... C'est ce qui, effectivement, ne nécessite pas de transformation. Donc, c'est ce qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est la première étape quand on veut avoir des démarches écologiques. Le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis tout temps, en fait. Depuis tout temps, on a réemployé. C'est vrai qu'avec la massification, la globalisation de l'économie mondiale, on a un peu oublié ça. Et les conséquences sont importantes, puisque si je prends en Île-de-France, 70% des déchets sont produits du bâtiment. Donc, c'est bien, on est tous chez soi en train de trier ces bouteilles. Il n'empêche qu'il faut aussi que dans ce domaine-là, on trie. Dans le domaine du bâtiment, effectivement, on diagnostique ce qu'on peut réutiliser et qu'on essaie de réutiliser au maximum. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça commence à se faire. Ça commence à se faire et qu'en plus, finalement, ça permet d'avoir accès parfois à des matériaux de meilleure qualité parce qu'ils sont là depuis très longtemps. On a des forêts... de chênes qui ont été plantées il y a des siècles. Et c'est vrai que quand on démolit, pouvoir réutiliser ces matériaux-là, c'est quand même essentiel. Donc on a vraiment du matériau. On est en train de s'organiser. Il faut des plateformes, il faut de la logistique, il faut des entreprises effectivement qui sont formées pour pouvoir réemployer. Mais c'est en train de se mettre en place à grande échelle. Et puis c'est très fortement tiré, et c'est ce sur quoi je vais conclure, par les grands marchés. Parce qu'aujourd'hui, mon association Les Canaux intervient pour les Jeux Olympiques pour que justement cette dimension d'économie circulaire soit vraiment au cœur des constructions des Jeux. Et donc on est en appui sur les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre sur l'intégration de ce domaine-là, et c'est vraiment une exigence. La loi AGEC a aussi rendu des choses obligatoires dans ce domaine-là. Et puis de plus en plus de collectivités, de pouvoirs publics, dans leur marché, veulent être responsables et tirent vers une exigence de plus en plus forte. Donc aujourd'hui, pour remporter les marchés, il faudra faire du réemploi. Et donc il faut s'organiser pour faire du réemploi.
Autour du fameux triangle évoqué par Stéphane, vous étiez d'accord. Cédric ?
Moi, je propose un autre triangle en miroir du triangle diagnostiqueur, filière de réemploi, artisan au geste sûr, absolument nécessaire. Pour un triangle qui est la maîtrise d'ouvrage, qui va accepter de prescrire du réemploi, de s'engager justement à battre des tonnes de carbone en mettant en œuvre du réemploi comme une pratique courante. Un maître d'œuvre qui va accepter de justement évaluer, on va lui apporter des propositions de réemploi derrière, il va les évaluer, il va essayer de faire rentrer ça dans son ADN, justement pour tirer toute cette filière côté demande. Et bien sûr, il y aura un bureau de contrôle quelque part. Tout ça va fonctionner en bonne harmonie avec l'autre triangle. Donc voilà, un triangle miroir côté demande. Et je pense que le monde comme ça est à peu près parfait.
Franck, je vous voyais réagir.
Oui, mais moi, en fait, là-dessus, c'est ce qui est évoqué, c'est qu'il y a les artisans, il y a ces professionnels du bâtiment, donc il faut arriver à les accompagner pour qu'ils changent leurs pratiques. On évoquait tout à l'heure en amont la nécessité de passer du temps pour accepter de réemployer. Il y a des process, on le disait tout à l'heure, c'est un projet, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc il faut être formé sur l'éco-conception, sur la mise en œuvre en anticipant la fin de vie de l'infrastructure pour ensuite favoriser le réemploi. Et donc là, pour le coup, on passe par la case formation, évolution des compétences. Et là, pour le coup, nous avons deux sujets. Le premier, c'est les apprentis, je dirais qu'ils sont formés aujourd'hui pour le secteur de la construction, qui sont aujourd'hui largement accompagnés et rompus au sujet de l'économie circulaire. Donc on a un exemple en ce moment qui est en train d'être lancé avec Agir et brillamment. Donc Stéphane nous le disait encore la dernière fois. Donc nous avons une équipe d'apprentis et de formateurs en Grand Est qui sont formés au rudiment de l'économie circulaire et notamment du réemploi pour être des ambassadeurs, des porteurs de cette nouvelle façon de penser les bâtiments auprès des entreprises de la construction.
Je rebondis sur la question de la maîtrise d'ouvrage. Je pense que les trois acteurs dont vous nous parliez tout à l'heure, effectivement, il faut qu'ils s'appuient sur des initiatives qui sont impulsées par les maîtrises d'ouvrage.
Exactement. Aujourd'hui, on le comprend bien, on parle d'ouvrage de construction. Donc à un moment donné, on a besoin d'avoir un acteur qui va porter le projet. Et celui qui porte le projet dans le système actuel qu'on connaît dans notre quotidien, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice de construction. C'est celui qui va donner le tempo, qui va fixer ses exigences. Et pour pouvoir déployer à sa juste mesure le réemploi, à la hauteur des ambitions qui sont celles de l'urgence environnementale, il va falloir qu'il soit convaincu, premier élément, et ensuite, très souvent, comme c'est le cas de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle se fasse accompagner par un certain nombre de spécialistes, appelons-les filières, métiers. Donc on peut avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage économie circulaire, ou quand on souhaite être un petit peu plus pointu, on va descendre sur une assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, qui est tout à fait possible et qui permet d'être au plus fin, au plus proche des besoins et de dégager l'ensemble des synergies que réclame un projet qui est un projet économie circulaire intégrant un maximum de réemploi.
Comment vous percevez, Cédric, ce défi organisationnel dans votre activité quotidienne ? Y a-t-il un effort à faire sur les connaissances, notamment ?
Sur les connaissances, bien certainement. Mais je vais remettre en perspective, en fait, les circonstances de la naissance du booster de réemploi. Ça va éclairer un peu le chemin qu'on est tous en train de faire, justement, sur ce sujet-là. Grâce au Grenelle de l'environnement, il faut le détonateur à peu près de tout ce sujet-là en 2009-2010. Il y a un diagnostic déchets qui devient aujourd'hui le diagnostic PEMD en 10 ans d'élaboration et d'ajustement. Donc on va regarder un bâtiment non plus comme un bâtiment simplement à déconstruire et à recycler, comme une source de déchets. On va le regarder comme une source de produits, d'équipements et de matériaux qui sont possiblement réemployés et in fine bien sûr de déchets, parce qu'il y a des choses bien sûr qu'on devra faire partir dans cette filière-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que côté offre, un certain nombre de maîtrises d'ouvrage qui font des curages, tout le monde en fait, il y a énormément de gens qui commencent à collecter, trouver, recenser et trouver du matériel viable, du matériel dont le bon sens leur dit qu'il est viable. Mais si on fait passer des techniciens derrière, ils vont pouvoir attester que c'est viable, c'est très important. J'entends bien les deux niveaux. Et donc, depuis, nous, on remarque en fait que des gens qui se structurent pour offrir du matériel de construction en réemploi, on a recensé plus de 90 plateformes, qu'elles soient digitales, numériques, qu'elles soient physiques, qu'elles s'organisent autour des pouvoirs publics, comme dans certaines régions, qu'elles s'organisent autour des artisans de la construction. Il y a une plateforme d'ailleurs qu'on a découverte il n'y a pas longtemps, assez sympathique, qui c'est toutes les erreurs de commande et fins de chantier qui sont empilées dans un magnifique entrepôt du côté de Nantes. Et ces gens-là ne veulent pas jeter ce matériel-là. Donc à nous de leur trouver une demande. Donc structurellement, il y a vraiment un besoin de faire démarrer une demande structurée pour ces 90 plateformes et toutes les start-up qui se sont mises du côté de l'économie circulaire. Et c'est vraiment le but du booster du réemploi, qui est de vraiment rééquilibrer le sujet offre-demande sur du matériel viable et dont la destination est la benne si jamais on ne fait pas quelque chose. Voilà.
Donc parler d'approvisionnement, parler de expliquer, accompagner sur les questions tels que le stockage, par exemple, aussi.
Alors, le stockage, ça va être un élément essentiel de connexion, en fait, entre l'offre et la demande. Mais déjà, il faut savoir justement apprendre à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir se lancer dans une opération et avec du réemploi comme étant quelque chose de dérisqué, quelque chose qu'ils vont pouvoir pratiquer en opération commune et courante, alors que ce n'était pas du tout leur ADN jusque-là. Hein, on se servait dans les supermarchés du neuf. Hein.
Et on rebondit, je pense, sur la question aussi des compétences, Franck, c'est ça ?
Oui, des compétences, mais aussi... Aussi, je pense qu'il y a un élément que vous soulevez qui est extrêmement important, c'est aussi le réemploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de moins polluant aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a de moins polluant parce qu'on reste sur le territoire. Et donc aujourd'hui, et là je fais le lien avec le développement territorial, le réemploi favorise le transfert de produits, de matériaux en local et favorise aussi l'évolution des compétences pour être plus en phase avec les besoins du territoire. Et donc là, c'est, je dirais que c'est un cercle vertueux sur différents cercles, comme vous évoquiez, M. Borrell, à l'instant. Donc c'est ce que je voulais souligner.
En termes de compétences, juste parce qu'on a aussi des efforts, des ajustements à faire.
Bien sûr. Alors, il y a... En fait, là ça va dépendre de l'ancienneté du matériau, des matériels qui sont posés. Jusque-là, on a vu, par exemple, dans des grands bureaux parisiens, quand la moquette n'était plus du goût de son locataire ou parce que le locataire allait changer, on pouvait jeter du matériel qui avait 2 ans d'âge. C'était un scandale intellectuel, mais c'était la nécessité opérationnelle qui faisait ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on ait un nouveau regard et une connaissance justement pour regarder le matériel en fonction de son âge. Peut-être qu'on va jeter un matériel qui est encore en catalogue, qui est encore aux normes, etc. Donc peut-être qu'un démontage, une palettisation soignée, une conformité visuelle et donc cette traçabilité qui est absolument nécessaire pour le sujet va suffire pour le faire. Et en fait, plus on recule dans le temps, plus en fait certaines caractéristiques qu'on a mappées au sein du booster permettent de faire en sorte de regarder de manière dérisquée le réemploi. Est-ce que le matériel est dissociable ou pas dissociable de l'ouvrage, tout simplement? Est-ce qu'on est sur un matériel qui est industriellement posé, démontable, etc., qui a été fait pour une bonne maintenance? À ce moment-là, le mainteneur, le déplacer le carré de moquette entre 2 étages, pourquoi pas traverser la rue? Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, il faut une analyse critique, il faut une bonne connaissance d'acheter un gisement, il faut une bonne connaissance du matériel qui est proposé, il faut avoir d'une critériologie, ça c'est vraiment le paradigme de la maîtrise d'ouvrage.
Oui, voilà. Tout à fait.
Alors, moi je vous écoute, je vous pose la question, je reviens à la question du début de notre échange. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui, le réemploi, et notamment dans le BTP, où est-ce qu'on en est?
Alors aujourd'hui, on
constate... Oui. Stéphane, ouais, allez-y.
Voilà, donc aujourd'hui on constate un fort engouement là, sur le sujet. Donc on le voit sur le nombre de tables rondes, si je peux dire, qui sont organisées à l'initiative de tout un tas d'acteurs, à l'initiative, et c'est heureux, d'un certain nombre de maîtrises d'ouvrage aussi, qui souhaitent un petit peu en savoir plus, parce qu'il y a des exigences aujourd'hui qui les amènent à se remettre en question, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, et notamment des exigences assez pratico-pratiques qui sont celles d'un certain nombre d'usagers qui, dans différentes situations, donnent le tempo pour tout un tas d'acteurs. C'est particulièrement vrai pour la maîtrise d'ouvrage public, et c'est important. Pour autant, il y a encore du chemin à faire. On voit aujourd'hui qu'en matière de réemploi sur les matériaux du second œuvre, on est à 35%. À peu près 35 millions sur 10 millions. Donc le chemin, certes, a déjà été engagé.
3 millions sur 10 millions,
tout à fait. Et on s'était donné un certain nombre d'exigences aussi et d'objectifs. C'était le cas de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, qui avait dit, voilà, à l'horizon 2020, il faudrait qu'on ait atteint le chiffre de 70%, encore 70%, en termes de valorisation des déchets de construction. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc oui, il y a de l'engouement, oui, il y a une volonté d'y aller, mais oui, le chemin est encore important, l'accélération doit être amplifiée, pour autant qu'elle ait déjà démarré. Mais beaucoup d'acteurs sont en marche, beaucoup de volontés sont réunies, on le voit aujourd'hui. Et je tiens quand même à souligner qu'un certain nombre d'acteurs ici ont engagé leur volonté, leur enthousiasme, leur expertise depuis déjà un certain temps.
En deux mots, Stéphane, l'offre, elle se structure aujourd'hui sur différentes filières, l'offre de réemploi.
Oui.
Avant de passer la parole à Elisa.
Alors, en deux mots, de manière très synthétique, aujourd'hui, on va avoir des filières industrielles. On va avoir des filières de l'économie sociale et solidaire, alors souvent organisées sous forme associative, mais ce sont des acteurs extrêmement importants parce que des acteurs de terrain à proximité des différents points d'intérêt, si je puis dire, et en totale connexion avec les réalités. Donc ça, c'est vraiment déterminant. Et puis, ça a plus ou moins été esquissé tout à l'heure quand on a évoqué les considérations dites logistiques de ce type de sujet. Il y a tout un tas de marketplaces qui existent aujourd'hui, certaines qui sont depuis un certain nombre d'années installées et qui ont donc une notoriété suffisante pour que les regards se tournent vers elles et après les regards, les flux de matériaux que l'on peut réemployer.
Elisa Yavchitz, parmi ces éléments, parmi ces filières, qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne? Qu'est-ce qui est effectivement réemployé? Je vous voyais... nuancer, enfin, le...
Non, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité parce qu'il y a de plus en plus, effectivement, de maîtrise d'ouvrage qui le demandent, donc les entreprises doivent y aller. Nous, par exemple, on a la Maison des Canaux qui est notre... ce sont nos bureaux, qui est un pavillon historique de... un pavillon qui date de 1892 et qui a été rénové 100% en économie circulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des matériaux, et ça fait 1000 mètres carrés, ont été issus du réemploi et de l'aménagement du réemploi et du recyclage avec vraiment énormément de solutions. On parlait des portes. Alors par exemple, sur le chantier, les barrières de chantier sont faites avec les portes de cave qui n'étaient plus... il y avait une centaine d'années, on ne pouvait plus vraiment les utiliser comme portes, mais qui peuvent être des barrières de chantier autour du bâtiment et qui sont en bois et c'est plutôt joli, qui coûtent beaucoup moins cher que d'aller chercher des portes ailleurs. Plus globalement, les pierres, par exemple, qui sont issues de la démolition de certains murs, puisqu'on fait des espaces aujourd'hui plus grands, sont utilisées comme structure pour la terrasse. Les poutres métalliques de structure, donc on est vraiment sur de la structure, sont ici d'un chantier de démolition de Bondy. Et avec tout un travail, effectivement, avec le bureau technique, aujourd'hui, toute la structure est issue de poutres de réemploi. C'est aussi le béton qu'on peut utiliser. On a énormément de béton et aujourd'hui, cette filière est en avenir sur du réemploi parce qu'elle est peu utilisée. Mais là, on voit qu'il est réutilisé en dalles et poncé et ça fait des dalles de quasi-marbre. C'est très beau. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est que justement, tout est très beau. C'est un niveau... De construction et de rénovation de très haute qualité. C'est aussi aménagé avec du mobilier qui est issu de matériaux de réemploi. Et du coup, ça fait prendre conscience finalement que c'est possible, on peut vivre dans un monde comme ça et on peut faire de très belles réalisations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de délégations qui viennent nous voir, d'entreprises, de collectivités, même de délégations internationales pour voir, puisque ça a eu le prix de la meilleure innovation en France sur ce sujet-là. Et on espère bien que la deuxième phase de travaux l'aura aussi. Et donc, pour montrer que c'est possible finalement. Mais ça demande de l'agilité. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être... On n'est pas dans des processus où on reproduit systématiquement. Ça demande de la matière grise, ça demande de la réflexion
notamment,
souvent.
Notamment, vous avez fait appel à d'autres filières pour les cloisons.
Par exemple, ouais, les cloisons sont faites avec... alors, il y a des solutions matériaux plastiques maintenant avec SAS Minimum et d'autres entreprises en France qui récupèrent les bouteilles de plastique et qui en font des cloisons de plastique. L'isolation est faite aussi à partir de tissus issus d'Emmaüs qui est réinventé en textile intérieur pour faire de l'isolation de très belle qualité avec vraiment un design graphique et des designers qui sont derrière. Donc oui, on voit que dans toutes les filières, aujourd'hui vraiment dans toutes les filières, on peut mettre du réemploi. Mais voilà, il faut qu'on s'organise et qu'on soit tous autour de la table. Et la dernière chose, c'est que c'est extrêmement valorisant pour les équipes. Et que généralement, les équipes qui travaillent sur des projets comme ça sont heureux de le faire, c'est-à-dire sont heureux d'inventer des choses nouvelles qui finalement contribuent...
Qui ont du sens.
Qui ont du sens, voilà, et qui ont un enjeu pour l'environnement, qui a un enjeu pour la planète. De plus en plus de personnes sont conscientes, et dans les métiers du bâtiment notamment. Et donc, ça, c'est aussi... Au début, ça peut paraître compliqué pour les équipes, et in fine, c'est vraiment très, très gratifiant.
On va rebondir sur ce que vous disiez. Vous donniez plusieurs exemples. Est-ce que demain, on peut espérer, justement, recycler d'autres matériaux? Qu'est-ce qu'on peut... réemployer. Qu'est-ce qu'on pourrait réemployer demain qu'on ne réemploie pas déjà aujourd'hui?
Actuellement, sur le réemploi, nous, on est sur 13 cahiers des charges qui fonctionnent communément, de manière courante, dans tous les chantiers du booster. Le booster, enfin, les maîtres d'ouvrage viennent en mettant 5 projets par an dans lesquels ils vont faire le pari du réemploi. Actuellement, il y a 13 flux qu'on a complètement équipés en cahier des charges. Quand il y a un cahier des charges, ça veut dire qu'il y a une filière qui s'est produite au service derrière. Il s'agit vraiment de déboucler l'appel d'offres avec de la réalisation. Et donc, 13 flux qui sont vraiment le second œuvre architectural. On est en train de partir vers les lots techniques, de s'occuper. Nos équipementiers nationaux sont en train de faire des offres pour pouvoir certifier du matériel réemployé, chez les grands équipementiers électriques, qui sont les champions, nos champions à nous, et on part vers des éléments un peu plus complexes. Quand on va partir, en fait, sur le clos couvert, on va être sur des choses beaucoup plus complexes, à qualifier, beaucoup plus difficiles, mais sur lesquelles il y a déjà quelques réalisations. Alors, peut-être pas en réemploi pur, mais en upcycling. C'est l'opération Gessina, par exemple, live sur les Champs-Élysées, dans
upcycling,
lequel...
Upcycling, vous pouvez comment expliquer.
Upcycling, c'est le réemploi à une destination qui n'est pas la même que... Voilà, on l'utilise pour faire autre chose.
En français.
C'était la réutilisation dont vous parliez tout à l'heure, réemploi, réutilisation. Donc, ils ont réutilisé en dégrafant l'ensemble un certain nombre de plaques en éléments de façade. Sont maintenant dans le parking de chez Gessina, avenue de la Grande Armée, et il s'agit quand même de 300 tonnes de matériel qui a été sauvé pour ça. Voilà, donc des réalisations, on en a plein en termes de... Donc, dans mythe et réalité, moi je préférerais dire que c'est une réalité. Et en fait, à cause en fait de cet engouement, de cet engouement de la maîtrise d'ouvrage, d'avoir trouvé du matériel, le travail d'une maîtrise d'ouvrage, c'est de retravailler ses actifs, de les repositionner et de vraiment faire ces actions qui ont sens. Et le fait de tous les jours tomber sur du matériel viable... Oui. Leur donne vraiment envie de réussir à boucler la boucle.
Elisa ?
Alors, le réemploi, ça peut être les lavabos, ça peut être la robinetterie, ça peut être les poignées de porte, ça peut être les portes, ça peut être... effectivement, aujourd'hui, on arrive à même déceler des plaques de béton pour les réutiliser. C'est vraiment, on le disait, c'est toutes les structures métalliques. Donc, on a des gammes très très larges en réalité, on est presque sur tous les métiers.
C'est donc facile? Vous m'expliquez que c'est facile de faire du réemploi?
Il faut des compétences de diagnostic, il faut des compétences de logistique, parce que souvent on ne peut pas réemployer tout de suite, il va falloir stocker d'abord, trouver un lieu de stockage, donc il y a quand même des compétences de logistique. Ensuite, il y a aussi tout un travail assurantiel avec les bureaux techniques, donc il faut être capable aussi d'aller échanger, discuter avec les bureaux techniques pour effectivement avoir les autorisations. Donc on ne va pas dire que c'est facile, mais c'est, en tout cas aujourd'hui ça existe. Vous demandiez la question, est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui, c'est une réalité, et effectivement c'est une réalité en construction, parce qu'on a un grand chemin devant nous pour que ça soit à la hauteur des enjeux nécessaires.
Et ça veut dire qu'il faut développer une certaine sensibilité, peut-être aussi former oui, les futurs.
Et justement, ça peut devenir encore plus facile. On est sur un process, donc on est sur une industrialisation, et pour que ce soit encore plus facile, il faut bien penser le projet dès la conception, donc dès l'éco-conception, et justement c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Il y a nécessité d'accompagner ces professionnels du bâtiment sur la phase de construction, donc sur les canaux d'approvisionnement, donc sur la pose également, donc sur la pose et les matériaux employés, de façon à ce que ce soit déposable dans les meilleures conditions après, donc que l'on envisage, on va dire, un accompagnement, une évolution des compétences, une évolution des sensibilités de la construction jusqu'à la déconstruction. Et on parle parle bien de déconstruction et plus de démolition. Et je pense que tous ces mots, c'est une évolution des mentalités, une évolution des cultures. Je disais tout à l'heure en introduction, c'est que la culture est extrêmement importante. Et donc, il est important aujourd'hui de les accompagner, d'accompagner ces professionnels tout au long de la vie, donc dans l'évolution de leurs compétences, de l'appréhension d'un chantier. Et donc, les constructeurs d'aujourd'hui doivent devenir les déconstructeurs de demain ou les reconstructeurs des constructeurs de demain.
De la formation initiale à la formation continue, on a compris, le réemploi c'est passionnant, on est très en retard, alors on va passer aux questions qui fâchent, notre troisième point, et ça commence tout de suite, jingle.